Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au menu aujourd'hui, un atlas des cultures politiques latino-américaines avec en filigrane la question de savoir ce qui nous en rapproche et ce qui nous en distingue. C'est presque une tradition en Amérique latine. La figure du dirigeant charismatique s'adressant directement au peuple, récoltant les voix en fustigeant les élites et en promettant des réformes radicales. Et puis, une fois au pouvoir, faisant fi des corps intermédiaires et réinterprétant librement les règles et contraintes de la démocratie. Perón, Fujimori, Chavez, Bolsonaro, Uribe et d'autres encore, les exemples de ces dirigeants ne manquent pas en Amérique du Sud. Mais pourquoi cette culture politique est-elle si présente dans la région et pourrait-elle gagner l'Europe à la faveur de la montée des populismes? C'est la question que nous allons nous poser ce soir avec Olivier Dabenne, professeur à Sciences Po Paris et chercheur au CERI.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
L'histoire de l'Amérique latine, l'histoire de la France, de l'Italie, de l'Espagne, ça ne peut pas être complètement différent. Évidemment que c'est différent, et je ne veux pas dire que la France, c'est des Indiens, mais le Chili non plus, mais le Brésil non plus. Autrement dit, c'est les mêmes problèmes. Et si on ne veut pas comprendre que c'est les mêmes problèmes, on ne comprend ni l'Europe latine, ni l'Amérique latine.
Vous avez peut-être reconnu le sociologue Alain Touraine qui était interrogé par Zoé Sfès dans À voix nue en 2019. Olivier Dabenne, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que, tout comme lui, vous pouvez voir des points communs entre l'Amérique latine et l'Europe latine d'un point de vue de la culture politique?
Absolument, c'est une très belle analyse d'Alain Touraine qui met l'accent sur disons un certain nombre d'affinités et qui surtout fait remonter l'apparition du populisme à des temps plus lointains, parce qu'effectivement on trouve dans la culture politique méditerranéenne des traits que l'on retrouve ensuite en Amérique latine. C'est pas une thématique qui a été beaucoup étudiée parce que c'est toujours difficile de tirer des conclusions robustes sur la base de comparaisons un petit peu audacieuses. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une façon de faire de la politique qu'on va retrouver dans l'Italie de Mussolini ou de Berlusconi plus récemment, plus près de nous, et dans pas mal de pays d'Amérique latine. Pas tous, il ne faut pas non plus excessivement caricaturer, mais néanmoins, on fait de la politique avec du bagou, en exagérant... En faisant preuve de démagogie, parfois de mensonges éhontés, un petit peu partout dans le continent. Donc oui, il y a une origine Europe latine.
Ça s'explique comment? Par l'immigration qui emmène en même temps une tradition politique de la Méditerranée jusqu'à l'Amérique du Sud, par exemple?
Oui, alors c'est là que on ne peut être qu'interprétatif, en quelque sorte, c'est difficile à prouver, mais néanmoins, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une forte vague migratoire, et notamment italienne. On parle toujours des Espagnols, bien sûr, ce sont des terres qui étaient aux mains des Espagnols et des Portugais, mais au début du XXe siècle, on a vu arriver beaucoup, beaucoup d'Italiens avec une culture politique... Des courants politiques aussi, des pratiques revendicatives. Les grandes manifestations au début du XXe siècle en Amérique latine sont souvent dues à l'importation de traditions anarcho-syndicalistes qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, et des demandes aussi qui émanent de certaines catégories de la population qui ont un passé en Europe. Donc on peut retracer effectivement ces évolutions.
Est-ce que cette tradition, elle ne va pas aussi remonter jusqu'au sud des États-Unis? On sait que pendant la guerre de sécession, le sud était davantage soutenu, même si ce n'était pas forcément de façon très directe, par l'Europe, la vieille Europe latine, même par la France de Napoléon III. Or, le sud des États-Unis, c'est aussi le sud qui vote pour Donald Trump.
Oui, alors là, le raccourci historique, il est audacieux, sans aucun doute. Mais oui, il y a du populisme aux États-Unis, il y a du populisme ailleurs dans le monde. Ce n'est pas que la culture politique latine qui s'exporte dans ce continent. Il y a aussi des origines locales. Je pense que la problématique, c'est une problématique sociale. Et, plus que tout, on va peut-être en parler davantage. Mais si on essaye de retracer l'origine du populisme, il faut toujours se pointer des périodes de l'histoire où on va trouver... une problématique sociale particulièrement complexe. et des hommes providentiels qui prétendent, grâce à une union avec le peuple, pouvoir apporter des solutions à ces maux sociaux.
Alors l'Amérique latine, c'est grand. C'est pas la même chose en Argentine, au Mexique, au Brésil. Est-ce que néanmoins, Olivier Dabenne, il y a une unité qui ferait une forme de politique Amérique latine en tant que telle qu'on ne retrouverait pas exactement sous cette forme-là ailleurs?
Oui, indiscutablement, c'est ce qu'avaient déjà remarqué les grands voyageurs comme André Siegfried, par exemple, dans les années 30 au XXe siècle, qui avait parcouru l'ensemble du continent et qui décrivait une atmosphère politique commune dès lors que on arrivait dans les pays hispanophones ou lusophones. D'autres voyageurs ont fait le même constat, qu'il y a des choses qui paraissent similaires au-delà des différences, parce qu'évidemment, il y a des différences qui amenaient un journaliste comme Marcel Niedergang à parler de 20 Amériques latines et pas d'une Amérique latine. Mais pour certaines pratiques, certains comportements, certaines idées, certaines idéologies même, on voit effectivement une certaine unité. On voit bien aussi des politiques publiques qui se transmettent d'un pays à l'autre. On voit des façons de faire de la politique qui se transmettent. Donc, indiscutablement, il y a à la fois une très grande diversité, bien sûr, mais il y a aussi des traits communs qu'on s'efforce de mettre en exergue.
Et cette similarité, elle transcende la langue portugaise et espagnole. Il n'y a pas le Brésil d'un côté et puis comme deuxième bloc, le bloc hispanophone.
Un petit peu quand même. Après, ça dépend ce qu'on regarde, parce qu'on peut aussi avoir plusieurs Brésils dans le Brésil, parce qu'il ne faut pas oublier que le Brésil, c'est un continent à lui tout seul. Et du nord au sud, le sud du Brésil n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec le nord du Brésil. Et de fait, le sud du Brésil est beaucoup plus proche de l'Argentine ou de l'Uruguay que du nord. Qui est, disons, une entité séparée pratiquement. Donc oui, il y a plusieurs entités, même dans des pays plus petits comme la Colombie, comme le Mexique, on va repérer des différences à l'intérieur même des pays. Donc oui, il y a une très très grande diversité. C'est un vaste patchwork en fait, l'Amérique latine. Mais néanmoins, le travail des chercheurs consiste justement à mettre en lumière des régularités d'un pays à l'autre.
Est-ce qu'il y a le sentiment dans ces pays qu'on est des pays frères et qu'on a un destin commun qui naît de l'histoire aussi ?
Ah, indiscutablement, la rhétorique de l'unité est très forte. Et la patria grande et la grande patrie, c'est une référence obligatoire pour les apprentis politiciens en Amérique latine. Il n'est pas question de la nier. Cela dit, quand il s'agit de prendre des mesures concrètes pour faire vivre cette patria grande et cette unité, alors là, les choses se compliquent. Et l'Amérique latine, c'est aussi une longue histoire de tentatives avortées, d'unification, d'unité, et à la fin, de pays qui préfèrent se recroqueviller et défendre leur souveraineté.
Mais est-ce que les frontières ont un sens réel? Parce que ces frontières, elles sont finalement relativement récentes pour un certain nombre de pays, surtout du côté hispanophone. À quoi elles correspondent sur le terrain?
En fait, elles correspondent aux anciennes divisions administratives de l'Espagne colonisatrice. En fait, ce sont des petites provinces, parfois des entités encore plus petites que les provinces, qui se sont transformées en pays. On a dû construire, à partir d'entités politico-administratives extrêmement petites, des États-nations. Ce qui a été très compliqué, surtout dans les zones où ces entités administratives étaient minuscules, comme par exemple en Amérique centrale. C'est comme si un département français se convertissait en un État-nation du jour au lendemain, pratiquement. C'est très, très compliqué. Mais là encore, on voit une différence à l'intérieur du continent avec le Brésil, parce que le Brésil, il a su préserver son unité, parce que ça a été une fédération, un système fédéral, esclavagiste aussi. Et donc, il y a quand même une différence entre un incroyable morcellement des anciennes possessions hispaniques et l'unité préservée du côté Brésil. Et c'est pour la raison pour laquelle on a un pays si grand, le Brésil, aujourd'hui, et des tout petits pays en Amérique centrale qui parlent espagnol.
Ça dépend lesquels, parce que le Venezuela, l'Argentine, le Chili, ce sont quand même de grands pays. Pourquoi est-ce qu'ils étaient découpés de cette façon-là par les
grands pays, pas tant que ça. Hein. Enfin, quand on parle
l'Argentine, quand
Brésil,
même.
Oui, l'Argentine, indiscutablement. Pour comprendre cette relative unification, il faut remonter aux guerres civiles en fait, qui ont eu lieu après l'accession à l'indépendance de la plupart de ces pays et où on a vu des déchirements, on a vu beaucoup de décennies d'affrontements jusqu'à ce qu'un général, un caudillo, comme on dit, un dirigeant politique particulièrement...
Là aussi, c'est une figure politique,
une figure de la politique latino-américaine. Quand un caudillo s'est imposé, il a réussi à unifier le pays, là où c'était effectivement compliqué pendant des décennies.
Donc le sentiment national est quand même fort dans chacun des pays, Olivier Dabin.
Ah, absolument, oui, le sentiment national, il est incroyablement fort. Et c'est ce qui permet à certains projets politiques de ne rencontrer aucun obstacle. Il suffit de voir la façon dont Chavez, par exemple, et Maduro, maintenant au Venezuela, agitent le spectre de viol de la souveraineté du pays quand les États-Unis décident de revenir aux sanctions économiques, par exemple. Voilà, c'est une
atteinte. Ça marche tout de suite.
Ça marche tout de suite. Ça marche tout le temps, ça.
Et y compris entre les pays d'Amérique latine, il y a des rivalités nationales.
Oui, alors ça va jamais non plus très ou trop loin. C'est une des caractéristiques de l'Amérique latine, c'est que c'est quand même un continent assez pacifique, en fait. Si on regarde la carte du monde, on va se rendre compte qu'il y a relativement peu de conflits. Il y a des différents frontaliers, parce qu'il y a des frontières qui ont été mal tracées au moment des indépendances. Et donc, à intervalles réguliers, on voit revenir sur le devant de la scène ces débats sur la délimitation des frontières, comment traiter... ces questions-là, c'est toujours difficile et on est toujours au bord de l'affrontement, mais on est quand même que au bord par rapport à d'autres régions du monde. On voit pas ce déchaînement de violence pour des questions territoriales.
Vous l'expliquez comment, Olivier Dabin, qu'on reste toujours au bord?
Il n'y a aucun dirigeant politique qui va véritablement décider de franchir un pas. Il y en a eu quand même. Au 19e siècle en particulier, il y a eu des guerres interétatiques. Mais au 20e siècle, elles sont très peu nombreuses parce qu'on a affaire à des classes politiques qui font des calculs et qui préfèrent la connivence. Disons, le schéma classique, c'est quand même des catégories sociales de la population qui sont très puissantes, riches. Et qui n'ont pas intérêt à déclencher une guerre avec le voisin, d'autant plus qu'ils font des affaires avec les grandes familles qui dominent la vie politique du pays voisin aussi. Donc voilà, on s'arrange entre amis, on agite le spectre du viol des souverainetés quand c'est nécessaire, mais sans aller trop loin.
Toujours dans cette idée de la construction des États-nations latino-américaines, il y a aussi la question des différentes populations qui ont pu rendre un peu difficile la constitution de ces États-nations. Par exemple, au Pérou, où il y a beaucoup de diversité, 80% de la population est indienne, je crois, 20% sont blancs. Est-ce que ça a joué, ça, Olivier Dabin, dans parfois la difficulté de constituer des États-nations?
Il y a aussi beaucoup de métissage. Vargas Llosa disait à propos du Pérou qu'il n'y avait pas d'Indiens dans son pays. Du tout. En fait, il voulait dire on est tous le produit du métissage.
Oui, au Brésil aussi.
Très exagéré, parce qu'on sait très bien qu'au Brésil ou dans d'autres pays, il y a des hiérarchies sociales et raciales qui coïncident. Et donc, il y a du racisme, en fait, si vous voulez, un petit peu dans tous ces pays. Oui, alors... Là encore, il y a une très grande diversité de politique vis-à-vis de cette problématique d'intégration sociale, d'expansion de la citoyenneté à l'ensemble des habitants d'un territoire donné. Diverses tentatives ont été faites pour essayer d'élargir cette citoyenneté aux populations indiennes tout particulièrement. Et le Pérou, c'est un bon exemple parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont été... désireux de faire en sorte que l'État-nation ait une signification, un sens pour tous les habitants. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand on regarde les cartes, par exemple du Chili ou de l'Argentine au 19e siècle, enfin, jusqu'à bien fin du 19e siècle, on voit qu'il y a des territoires qui ne sont pas contrôlés, qui sont le cône sud du continent, là où il y a les Indiens Mapuche, et où pendant longtemps, on écrivait sur les cartes que ces territoires n'étaient pas contrôlables. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que le Chili a trouvé une solution définitive à la problématique de l'intégration de ces populations mapuches dans l'État-nation chilien. Et il y a constamment des revendications, des mouvements sociaux.
Avec des gens qui ne se sentent pas chiliens au Chili, par exemple, les Mapuches ne se sentent peut-être pas tellement chiliens.
Oui, et puis on ne les aide pas beaucoup à faire en sorte qu'ils se sentent chiliens parce qu'il y a des problèmes économiques. Eux, ils revendiquent ils ont des droits sur les terres. Des droits ancestraux sur les terres, Les gouvernements successifs au Chili ont décidé de ne pas accéder à ce type de demande. Et quand ils accèdent à ce type de demande, de ne pas véritablement leur permettre de vivre de l'accès à la terre, parce qu'il faut de l'eau pour cultiver les terres. Et donc voilà, il y a aussi de la ségrégation économique vis-à-vis de ces populations.
Alors Olivier Daven, quand on pense à la politique en Amérique latine, c'est peut-être un cliché d'ailleurs, mais enfin, on pense à la révolution, comme si la politique dans le sous-continent américain passait souvent par les armes, par le renversement du pouvoir en place. Est-ce que c'est une image qu'on a en tête, ou est-ce que ça correspond quand même à quelque chose ?
C'est un petit peu un cliché quand même, c'est sûr. Parce qu'en fait, le décompte des épisodes révolutionnaires en Amérique latine, au-delà de la rhétorique, parce qu'on a eu beaucoup de régimes qui se sont auto-déclarés révolutionnaires, alors que par exemple, c'était des vulgaires dictatures militaires. Mais quand il y a cette composante un peu plus sociale, socio-économique et un grand projet politique, en fait, des révolutions, il y en a eu relativement peu. Le problème, c'est qu'elles sont particulièrement visibles parce qu'elles ont été influentes, non seulement en Amérique latine, mais aussi dans le reste du monde.
Parce qu'elles ont produit des figures aussi, comme Che Guevara, par exemple.
Voilà, comme Che Guevara, bien sûr, ou des projets. La constitution mexicaine a été un modèle pour beaucoup de régions du monde. Évidemment, il y a la révolution cubaine qui a essaimé un peu partout dans le monde, et surtout, évidemment, en Amérique latine. Donc, en fait, voilà, ce sont des événements marquants. Mais il n'y en a pas dans tous les pays et il n'y en a pas à toutes les époques. Après, ce qui est vrai, c'est que si on commence à regarder les raisons pour lesquelles on a ce genre d'épisode violent et révolutionnaire, c'est toujours à la base des questions d'exclusion, d'inégalité, de pauvreté qui font que vous avez la marmite qui explose en quelque sorte. Mais il n'y en a pas énormément. Si on parle de d'évolution plus récente, on verra que les révolutions dans les années 2000, c'est le Venezuela, c'est la Bolivie, c'est l'Équateur, etc. Chacune a mis en avant une dimension, révolution citoyenne, etc. Mais encore une fois, ça n'a pas essaimé à l'ensemble du continent.
Et pourquoi est-ce qu'on a gardé en tête ces images-là, alors que finalement, comme vous le dites, Olivier Daben, c'est peut-être un peu du folklore ?
La figure du Che Guevara est devenue une icône mondiale. Donc c'est vrai que vous avez comme ça des figures qui ont voyagé. L'Amérique latine est devenue le terreau des pulsions révolutionnaires dans le monde. Des exemples à suivre.
Peut-être que les médias s'intéressent aussi plus facilement.
Oui, justement, romantisme.
Voilà, à ce romantisme-là.
Bien sûr, oui, ça compte.
Les séries télévisées.
Oui, ça compte. Mais ça ne rend que très mal compte, en fait, de la réalité. La réalité, c'est que l'Amérique latine est assez profondément conservatrice. Et si on devait faire un décompte de tous les gouvernements depuis les indépendances, le camp conservateur dominerait outrageusement.
Oui. Mais peut-être que le camp conservateur, il domine aussi parce que il y a la peur de la guérilla. Je pense par exemple à la peur des FARC qui, à un moment donné, peuvent faire monter une droite plus dure. Est-ce que ça, c'est pas aussi un phénomène qui peut arriver ?
Vous avez raison de dire qu'il y a un facteur important qui est effectivement la peur de ce genre d'épisode et la peur toujours présente de mouvements disons sociaux importants. Les soulèvements indiens, par exemple, du début des années 90, ont réavivé des peurs à Tavik concernant ces populations qui allaient débarquer dans les grandes villes et essayer de prendre le pouvoir. Donc il y a aussi cette question-là qui a provoqué des dérives autoritaires, c'est-à-dire au nom de la défense de l'ordre établi et des valeurs démocratiques occidentales, etc., on va violemment réprimer des mouvements sociaux qui, à l'origine, sont souvent des mouvements qui portent sur des revendications salariales, des conditions de travail, etc., mais qu'on va transformer dans l'image de ces secteurs conservateurs en mouvement dangereux pour la paix sociale. Donc ça a justifié bien des dérives ou des réactions autoritaires, des réactions violentes. On en a beaucoup d'exemples de massacres des populations indiennes, mais aussi des massacres d'ouvriers de Buenos Aires jusqu'à Caracas. On a ça dans l'histoire sociale d'Amérique latine. Elle est ponctuée par des épisodes d'extrême violence qui sont largement dus à cette crainte, cette obsession de voir la pauvreté envahir les villes et avec des gens qui vont détruire le modèle politique de ces pays.
Alors là, j'ai envie de vous demander, c'est peut-être un peu audacieux là encore, et il faut toute proportion garder, si la montée du populisme en Europe ne peut pas être liée à la peur du terrorisme, par exemple, qui fait que, en réaction à une peur un peu diffuse, on a envie de voter pour des partis qui ont des solutions plus radicales. Est-ce que là, vous verriez un parallèle possible ?
Oui, peut-être. Alors bon, moi, je suis toujours très prudent concernant l'utilisation de la notion de populisme en Amérique latine ou ailleurs. Bon, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir si vous le souhaitez, qui ont beaucoup à voir avec l'origine de la notion et quand elle s'est développée et qui correspond à une conjoncture assez particulière, en fait.
C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un mot.
En fait, c'est les années pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. On est au Brésil, on est évidemment en Argentine, où il y a une vraie question sociale. Et où on voit apparaître des dirigeants qui vont prendre en main cette question sociale pour apporter des réponses favorables en termes de gains de pouvoir d'achat au mouvement ouvrier ou aux gens qui sont dans la rue, les fameux sans chemise, les descamisados en Argentine. Et qui vont lancer un projet national. Donc c'est faire de ces populations pauvres des sujets de leur histoire, en quelque sorte, et les incorporer dans un projet qui est un projet très nationaliste de développement économique, allié à une façon de faire de la politique qui consiste à refuser les intermédiations, c'est-à-dire c'est le dirigeant qui s'adresse à son peuple, et le peuple qui lui apporte un soutien, pas tellement dans les urnes, mais dans la rue, c'est-à-dire ces gigantesques attroupements où on voit des tribuns très charismatiques et une foule subjuguée qui rentre dans l'histoire.
Mais ça, c'est plutôt les populistes de gauche. Il y a aussi des populistes de droite en Amérique latine.
Oui,
il y a des populistes qui s'intéressaient de la même façon à la pauvreté.
Oui, justement, peuple. C'est un petit peu la marque de fabrique du populisme. C'est toujours le refus des disons du système représentatif, l'accès direct au peuple et surtout à sa composante la plus pauvre, la plus vulnérable. C'est pour ça que quand on utilise cette notion pour rendre compte d'expériences plus récentes ailleurs dans le monde, etc., en fait, on réduit ça à de la démagogie souvent. On perd un petit peu en richesse de l'analytique que procure cette notion appliquée à l'Amérique latine des années 45-50. Mais c'est la composante importante, c'est les limites de la représentation, de la démocratie représentative. C'est-à-dire on a toujours dans ce discours populiste des dirigeants qui vont expliquer que la politique, ça divise, les partis, ça divise. Et si on veut unifier le peuple, il faut faire confiance aux leaders.
Et il faut lui parler directement, pourquoi pas, à travers la télévision.
¡Aló, presidente! ¡Bravo! ¿Qué me traes?
Galleta.
Galleta, da. Bueno, dame galleta, pues. Dame galleta. Están viendo lo que es un niño. Lo que es un niño, ¿ves? La generosidad. Luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo. Pero él comparte lo que tiene en la boca.
Diga, señor presidente.
Géographie à la carte sur France Culture. C'était un extrait de l'émission télévisée Allo Presidente d'Hugo Chavez, mort en 2013. Une séquence où un enfant sort de sa bouche un morceau de cookie, le donne à Hugo Chavez qui le mange sans difficulté et en profite pour dire à quel point les enfants sont généreux, encore non pervertis par la société capitaliste. C'est vrai que quand on voit cette séquence, Olivier Dabenne, on comprend comment Chavez a réussi à se faire aimer par une bonne partie des Vénézuéliens.
Oui, alors c'est un morceau de bravoure ce que vous avez fait entendre là, parce qu'on voit Chavez au plus fort de sa popularité, et avec sa façon très particulière de gouverner, parce que aller dans des villages, c'est pas simplement rencontrer des enfants, partager un biscuit, c'est aussi demander aux habitants quels sont leurs problèmes, et c'est aussi interpeller. Il avait l'habitude de tenir des conseils des ministres un petit peu partout dans le pays.
Chaque semaine dans un endroit différent.
Et à chaque fois, en demandant des ministres, et malheur, gare à celui... Qui faisait mal son travail. Si quelqu'un disait nous on aimerait bien que la route soit réparée, il était capable de licencier son ministre des transports publics sur le champ. Donc c'est une façon de gouverner en direct, en fait.
On l'a appelé. Est-ce que c'est la bonne méthode pour que la route soit réparée à la fin? On n'en est pas tout à fait sûr.
Non, on n'est pas tout à fait sûr, mais on a quand même beaucoup d'exemples où ça a marché. C'est-à-dire où on le voit même dans par exemple, en plein centre de Caracas, tout d'un coup, il regarde un immeuble et puis il demande à un conseiller « Mais il est acquis cet immeuble ?»« Bon, allez, on va le privatiser, il est pour nous. » on va le confisquer, plus exactement. Et ensuite, il va offrir des appartements. Il y a une façon de gouverner qui est extraordinaire. Donc là, pas de parti politique, pas de parlement, pas de structure intermédiaire. C'est vraiment le leader et c'est ses ministres derrière lui, à l'écoute du peuple, répondant directement aux demandes formulées par les habitants d'une communauté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait le télépresident, hein, le téléprésident à l'époque. Mais pour revenir à notre histoire de droite-gauche et des populistes, on a vu à la même époque Uribe, président de droite en Colombie, faire à peu près la même chose. Donc les télépresidents, en fait, ça n'avait pas vraiment de couleur politique, c'était un style, en fait, plus qu'autre chose, un style de gouvernement qui consistait à montrer aux gens que la politique, c'est utile, la politique, c'est des décisions qui sont prises sur le champ et pas de la bureaucratie et pas des hommes politiques qui en font des discours. Non, c'est je décide, vous venez me voir, on regarde vos problèmes et je décide.
Et est-ce que on peut essayer de comprendre pourquoi dans cette région du monde, cette manière politique de gouverner est autant répandue, Olivier Dabène?
Ça, c'est la question à 100 000 dollars, parce que en fait, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que d'abord, il faut relativiser l'originalité de la formule, parce qu'on en a vu ailleurs, des dirigeants comme ça, très démagogues, faisant des promesses, ou même allant à la rencontre et se basant sur un discours qui est toujours ce discours antipolitique. Mais pourquoi plus? Parce que il y a tout simplement plus de besoins sociaux, il y a plus d'inégalités en Amérique latine que nulle part ailleurs dans le monde. Et à la source de finalement, le populiste, le leader populiste, se nourrit des inégalités. Parce que sinon, il ne peut pas déployer son discours de l'antipolitique, son discours de l'anticapitalisme, sa générosité. Donc la métaphore, je partage un biscuit, je partage les richesses de la nation. Mais à l'origine, je pense que c'est ça. C'est cet incroyable niveau d'inégalité qu'il y a dans cette région qui fait qu'on va toujours avoir une matière à construire un narratif sur comment on doit gouverner.
Ouais. Alain Touraine, toujours lui, définit le populisme comme une tentative de contrôle anti-élitiste du changement social. Vous souscrivez à cette définition?
Oui, complètement. Oui, bien sûr. Ça dit, Alain Touraine fait partie de ceux que je me range aussi dans cette mouvance qui considère que le populisme, c'est les années 45-50 essentiellement, et depuis on a un petit peu employé cette notion. Par exemple, dans les années 90 en Argentine, il y a un président qui s'appelait Carlos Menem, qui était un pur néolibéral. Mais c'était un populiste, on l'appelait un néo-populiste néolibéral. Alors, néo, ça commence à être un petit peu excessif.
Il n'y a pas de raison qu'il y ait un antagonisme de principe entre le néolibéralisme et le populisme, d'ailleurs.
Le néolibéralisme rend difficile la mise en œuvre de politiques redistributives. Donc il y a quand même une composante essentielle du populisme, c'est toujours la redistribution. C'est-à-dire, en fait, on veut donner du pouvoir d'achat aux catégories les plus vulnérables, et en particulier les ouvriers dans les pays un peu plus avancés comme l'Argentine. Le néolibéralisme est complètement incapable de penser en termes de redistribution, parce que la doctrine économique, c'est plutôt laissons faire le marché, et s'il y a de la prospérité, elle finira par dégouliner, ruisseler jusqu'aux plus pauvres. En Argentine, ça a pris 10 ans pour que les plus pauvres en question se rendent compte que ça ne marchait pas. Et l'expérience néo-populiste néolibérale s'est terminée par des mouvements sociaux de grande ampleur en 2001 et, et une succession de 3 ou 4 présidents en quelques jours, enfin un chaos total dans le pays. Donc bon, l'Argentine a payé cher cette expérience de néolibéralisme.
Pourtant, l'Argentine y revient avec Milei. Alors c'est pas exactement la même chose puisque c'est de l'anarcho-capitalisme. C'est une bonne base quand même de néolibéralisme dans la pensée de Javier Milei.
Ah oui, complètement. C'est du néolibéralisme à l'état pur. C'est-à-dire on veut supprimer l'État. C'est là qu'il y a la dimension peut-être anarchiste. Mais en tout cas, on est vraiment face à un dirigeant qui croit qu'il peut donner du pouvoir d'achat, lutter contre l'inflation, en éliminant pratiquement toutes sortes de formes de régulation. Donc les premiers décrets de Milei en début de cette année ont été spectaculaires. C'est-à-dire qu'il veut tout déréglementer, que l'État disparaisse, en quelque sorte.
Donc là, on a un leader charismatique, on va dire charismatique plutôt que populiste à ce moment-là, c'est peut-être plus facile d'utiliser ce mot, qui va à l'encontre de ce qui, d'habitude, fait émerger le leader charismatique. Est-ce que ça signifie que, je sais pas, on a tout essayé en Argentine, se disent les Argentins, donc on essaye quelque chose de nouveau? Comment vous analysez justement ce cas dans le contexte de la tradition, finalement, des leaders charismatiques à Argentin?
Effectivement, on a l'impression qu'on revient un petit peu en arrière, qu'on revient aux années 90 en Argentine, et en tout cas qu'on revient à une façon de faire de la politique qui consiste à dire je vais faire le ménage. Ce qui est un grand classique de la politique en Amérique latine. Au Brésil, on se rappelle dans les années 50 un homme politique qui se présentait en train de balayer. Bon, c'est toujours cette image, il faut faire le ménage, il faut faire le ménage, il faut se débarrasser de tous ces hommes politiques qui nuisent au pays. Et effectivement, c'est un petit peu étrange parce que on a tendance à penser qu'on connaît la suite parce qu'on l'a déjà vu.
Et c'est ça, c'est que ce sont des candidats anti-système qui sont entrés dans le système.
Ils sont entrés dans le système et depuis longtemps. Et qui vont détruire.
Donc, comment est-ce que les électeurs continuent finalement de faire confiance à des modèles dont ils devraient voir que ce sont des hommes et des femmes politiques au fond comme les autres, qui sont autant critiquables que ceux que les charismatiques critiquent.
Bah, depuis quelques années, on voit en Amérique latine une désalternance systématique. On a analysé ça dans un livre pour essayer de comprendre pourquoi les électeurs, depuis une quinzaine d'années maintenant, dans beaucoup de pays, votent systématiquement contre. C'est-à-dire, en fait, le projet idéologique n'a pas beaucoup d'importance. Ils vont juste adhérer à ce projet qui consiste à tout détruire et à changer et à faire venir des gens, si possible, qui ne viennent pas du monde de la politique, parce qu'on considère que tout ce qui vient de la politique est méprisable.
Alors, puisque vous en venez là, je vous propose de nous intéresser à la traditionnelle carte de géographie à la carte.
Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Cette carte qui est en réalité une série de 4 cartes et que nous devons à Nato Tardieu qui les a dessinées pour l'Institut EGA et qui montre l'évolution politique en Amérique latine. Les auditeurs peuvent visualiser cette série de cartes sur notre site internet. Olivier Dabène, est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette série?
Alors, c'est une série qui est très intéressante parce qu'elle montre bien qu'il y a des vagues de changements politiques en Amérique latine qui sont spectaculaires parce qu'ils concernent pratiquement la totalité des pays. Donc, il y a 4 cartes. La première date de 1999. Donc, 1999, on est en Amérique latine dans une période néolibérale.
La Fujimori encore,
Fujimori,
peut-être.
Menem, Color, enfin, on voit le code couleur qu'ils ont utilisé pour cette carte et le bleu pour le camp conservateur, c'est toute l'Amérique du Sud sauf le Chili, sauf le Venezuela, donc et sauf le Mexique.
Et donc, puis la Guyane française.
Mais et puis la Guyane française.
Donc elle compte pas vraiment.
Mais ce qui est spectaculaire, c'est que entre cette carte 1999 et la suivante qui date de 2008, on va voir l'ensemble du continent basculé vers la gauche, vers le secteur progressiste, où là, on a absolument toute l'Amérique du Sud qui est concernée.
Donc la première carte est toute bleue, la deuxième est toute rouge, en gros, rose.
Voilà. Alors après, les deux dernières cartes sont 2021 et 2023, donc c'est plus récent. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus de diversité. Ça devient compliqué de décrire l'hégémonie d'un courant politique en 2021-2023 parce que Bon, c'est plus fragile. Il y a en 2023 beaucoup plus de pays progressistes qu'au début des années 2020, mais c'est pas aussi net qu'avant. Mais quand même, ce qui est intéressant, et bon, il faut le souligner, quand même assez unique au monde. On a du mal à penser à un autre continent où tout d'un coup, en l'espace de quelques années, on voit les électeurs aller tous dans la même direction. Donc ça, ils ont cru massivement au néolibéralisme. Puis à la fin des années 90, ils ont été déçus et ils ont massivement voté à gauche. C'est ce qu'on a appelé le tournant à gauche de l'Amérique latine. Et depuis, on a des petites vagues vers la droite, un petit retour de balancier vers la gauche. C'est plus diversifié. Mais ça reste, en fait, la variable la plus importante ici, c'est bien la volonté de changement.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même une synchronicité entre ces pays et que peut-être ils partagent un espace politique qui est commun, même si eux-mêmes ne le voient pas exactement comme ça, Olivier Dabenne.
Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de remonter un tout petit peu en arrière au moment des transitions vers la démocratie. Donc on est dans les années 80 en Amérique latine, où là, c'est un peu compliqué. Les premières élections ne donnent pas des résultats clairs à l'échelle du continent. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la fin des années 80, milieu-fin des années 80, il y a une crise économique. La plupart des pays vont adopter ce qu'on a appelé à l'époque le consensus de Washington, c'est-à-dire une série de mesures qui caractérisent le projet néolibéral et qui consiste essentiellement à déréguler, à privatiser. La plupart des pays vont se laisser convaincre par les organismes type Fonds monétaire international ou par leurs propres élites qui croient dans les vertus du marché.
Et c'est là où ils se synchronisent peut-être.
C'est là où ils se synchronisent. C'est parce qu'ils adoptent tous au même moment les mêmes mesures et qui vont produire les mêmes effets à la fin des années 90. Et c'est là qu'on bascule à gauche. Pas tellement parce que les gens tout d'un coup croient que le projet de gauche est plus intéressant que le projet néolibéral, mais c'est parce qu'ils rejettent massivement le néolibéralisme.
Donc même la bourgeoisie, à mon avis, va voter à gauche.
Donc c'est un basculement, disons, assez négatif au sens où c'est un vote de rejet. Et ce vote de rejet va installer la gauche au pouvoir de façon assez durable, parce que dans les années 2010, on assiste à un retournement de conjoncture économique qui est assez incroyable. Et qui permet à la gauche non seulement de gagner une élection, mais d'en gagner plusieurs à la suite. C'est impossible de les battre. En fait, à cette époque, il suffit de regarder quelques exemples. Je ne sais pas, le Venezuela de Hugo Chavez. Quand Hugo Chavez est élu président en 1998, pour la première fois, le baril de pétrole est aux alentours de 20-25 dollars. C'est donc une puissance pétrolière. À cette époque... Le Venezuela exporte aux alentours de 3 millions de barils par jour. Bon, en quelques années, le baril, il est passé de 30 à 100.
Ça donne des marges de manœuvre.
100 dollars le baril et 3 millions de barils par jour, c'est tout d'un coup le Venezuela, un pays immensément riche, qui peut se permettre de développer des programmes. Alors on parlait de programmes redistributifs tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire lutter contre la pauvreté grâce à la générosité des programmes qui sont mis en œuvre par le pouvoir. Mais on va retrouver ça un petit peu partout, dans d'autres pays.
Même au Brésil,
où
la croissance est plus forte. On considère que c'est vraiment le grand pays émergent de ce moment-là.
Alors, c'est pas très bon pour le développement économique de ces pays, parce que c'est ce qu'on appelle la reprimarisation. C'est-à-dire, tout d'un coup, les pays se mettent à avoir une production de richesse qui repose essentiellement sur l'extraction de minerais, par exemple, et l'exportation de ces produits vers la Chine en particulier.
Et puis trop d'argent du pétrole, ça pose des problèmes qui sont aussi des problèmes de corruption.
Nous sommes vraiment perplexes. On a l'impression d'être dans une impasse. Comment est-ce possible que notre classe politique confisque effrontément autant d'argent qui appartient à toute la population ?
Les révélations dans la presse s'enchaînent depuis la décision de la Cour suprême d'ouvrir une enquête sur plus d'une centaine de personnalités politiques. Les Brésiliens oscillent entre colère et amertume. Leonardo, 22 ans, est étudiant en biologie.
Plus l'enquête avance, plus on voit la crasse remonter à la surface et de plus en plus de noms de corrompus révélés. Alors bien sûr, nous sommes soulagés de voir que cela est enfin découvert. Mais ça me fait honte aussi de savoir que cela existe et que l'on vit avec la corruption en trouvant cela normal.
La classe politique brésilienne semble avoir perdu tout crédit. Pourtant, l'enquête sur le scandale Petrobras est encore loin d'être terminée.
É nessa energia que a Petrobras vai.
Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução.
Géographie à la carte, c'est cet extrait du journal de RFI avec François Cardona. En avril 2017, deux ans plus tôt, en 2015, avait éclaté le scandale Petrobras, du nom de cette entreprise publique pétrolière brésilienne dont plusieurs milliards de dollars avaient été détournés pour financer les partis politiques et pour enrichir les élus. Cette question de la corruption, est-ce qu'elle va de pair, Olivier Daben, avec les leaders charismatiques? Est-ce qu'elle les entretient? Est-ce que, alors dans tous les sens du terme, elle les entretient en leur donnant de l'argent et puis elle les entretient en créant dans la population voilà, une volonté d'en finir avec la classe politique et donc de mettre voilà, des personnalités soi-disant efficaces à leur place.
Oui, indiscutablement, c'est un cancer en Amérique latine, hein. Enfin, comme dans d'autres régions du monde, hein, bien sûr. L'ONG Transparence Internationale fait des classements chaque année. L'Amérique latine n'est pas parmi les régions les plus corrompues au monde. Mais néanmoins, il y a certains pays où, oui, effectivement, on se demande ce qui peut arriver de pire que de voir des gens détourner des sommes qui sont colossales. Quand on parle de Petrobras ou du scandale Odebrecht, ce sont des milliards qui ont été détournés. Donc, bon, effectivement, les populations réagissent et alimentent ce réflexe antipolitique. Bolsonaro au Brésil et d'autres ailleurs dans le continent sont aussi le produit de cette croyance maintenant bien installée que tous les politiques sont des pourris et que par conséquent, quand vient une campagne électorale, on va favoriser le candidat qui prétend ne pas appartenir au monde politique. Ce qui n'est pas le cas de Bolsonaro, entre parenthèses, hein, parce qu'il a quand même été pendant plus d'une 25 ans député dans l'État de Rio. Donc, il n'était pas dans la politique au sens où il faisait rien quand il était député, mais absolument rien. Deux initiatives de loi en 25 ans. Donc, évidemment, il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Donc, il ne s'est pas sali au contact avec la politique, mais il en fait partie. Mais par contre, on a vu ailleurs en Amérique latine d'authentiques outsiders, c'est-à-dire des gens qui effectivement pouvaient légitimement prétendre qu'ils n'appartenaient pas au monde politique. Fujimori est sans doute l'exemple le plus emblématique au Pérou dans les années 90, et où il a inauguré aussi une façon de rendre des comptes. C'est-à-dire, c'est pas simplement je fais pas de politique, c'est je veux être jugé sur mon action. Je veux être le plus transparent possible, je rends des comptes. Et c'est peut-être ça qui fait défaut en Amérique latine, c'est la reddition de comptes, en fait. Et c'est bien ça que reprochent les personnes interviewées dans votre sujet concernant les politiques ou les politiciens, c'est-à-dire ils ne rendent pas de comptes. À aucun moment on peut savoir exactement ce qu'ils font. Mais bon, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il est à de multiples facettes. Vous avez des questions, par exemple, de financement de la vie politique. On n'a pas toujours des politiciens qui s'en mettent plein les poches. Hein. C'est aussi des partis politiques qui cherchent à gagner des élections.
C'est ce qui s'est passé précisément au Brésil, où le scandale Petrobras, alors je ne suis pas spécialiste de cette affaire, mais n'est pas que un scandale d'enrichissement. Enfin, c'est aussi une question de financement des partis politiques, exactement, comme on a connu en France il y a de cela quelques décennies d'ailleurs.
Oui, et en Amérique latine, les partis politiques sont faibles en général. Ça veut dire qu'ils ont très très peu de militants. Qui dit peu de militants dit très peu d'argent. Il y a très peu de financement public pour les campagnes électorales et les partis politiques. En sorte que finalement, si vous voulez faire une campagne électorale efficace, il faut trouver de l'argent et vous n'allez pas en trouver facilement. Donc vous allez rapidement tomber entre les mains de secteurs illégaux, narcotrafiquants, etc., qui vont financer votre campagne électorale. Et évidemment, ensuite, ça veut dire qu'ils vont pratiquement co-gouverner.
Alors Lula, là-dedans, puisqu'on parle de Petrobras et que c'est aussi un scandale qui a touché Lula, comment le classer? Est-ce que c'est un leader charismatique? Parce que du charisme, il en a. Il parle directement au peuple. Il doit utiliser aussi les médias, sans doute assez bien et beaucoup. Mais on n'a peut-être pas exactement envie de le classer parmi les leaders charismatiques quand même. Si, Olivier Daben, qu'est-ce que vous en dites?
Si, moi je dirais sans aucun doute que pour moi c'est un dirigeant charismatique. Il n'y a qu'à le voir en face d'une foule prononçant un discours. C'est assez spectaculaire.
Mais il est vraiment du côté de la démocratie, alors que les populistes frôlent justement avec les limites de la démocratie.
C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il faut lui rendre hommage de ce point de vue-là, parce que au pic de sa popularité, il aurait très bien pu changer la Constitution pour se présenter une troisième fois, voire même pour faire sauter tous les verrous et se présenter autant de fois que les électeurs le veulent. Donc ça, c'est vrai qu'il ne l'a pas fait. Il a préféré organiser sa succession avec Dilma Rousseff, mais il n'a pas cherché à changer la Constitution comme l'ont fait d'autres dirigeants de gauche, d'ailleurs, à cette époque. Donc oui, c'est un démocrate. Il est capable de faire des choses peut-être pas toujours très légales, mais enfin, il a quand même fait de la prison alors qu'on n'a jamais rien prouvé sur lui. Si on en reste au fait, il y a quand même eu des décisions judiciaires qui étaient peut-être abusives, enfin, c'est même assez certain. Ça l'a aidé à se construire cette figure de martyr dont il a joué ensuite pour dire que tout ça était injuste. Donc ça l'a aidé à revenir au pouvoir, c'est sûr. Après, le Lula que l'on a aujourd'hui au Brésil n'est pas du tout le Lula 1 et Lula 2 qu'on a vu au début des années 2000, parce que la conjoncture économique est différente, parce que la configuration des rapports de force politiques au sein du Parlement sont complètement différents. Il a pas beaucoup de soutien, donc il gouverne pas vraiment le pays.
Donc il est moins flamboyant qu'il n'a été.
Il est beaucoup moins flamboyant, sauf sur la scène internationale, où là on retrouve le Lula qu'on avait connu il y a déjà quelques années, c'est-à-dire souhaitant faire de son pays une grande puissance.
Et ça, auprès duquel des présidents, comme le président français, aiment se montrer.
Oui, enfin, oui, le président français, il se montre pas souvent. Il est allé au Brésil récemment, c'est sûr, mais
ils ont fait des accolades quand même très, très.
Oui, oui, bon, ça, c'est la politique à la latino-américaine dont on parlait, hein, bien sûr. La diplomatie de l'abraço, hein, ça compte, bien sûr. Mais oui, c'est un dirigeant qui rentre dans cette catégorie de leader charismatique qui suscite beaucoup d'admiration, mais aussi de la haine. Le Brésil est un pays profondément polarisé et Lula suscite aussi beaucoup de haine, justement parce que les gens ne supportent pas toujours ces traits populistes et démagogiques qui font qu'on le voit promettre beaucoup de choses, mais est-ce qu'il pourra tenir, c'est moins sûr.
Mais alors, qu'en est-il des partis politiques dans ces pays? Parce que si c'est le chef qui gouverne en direct la nation, est-ce qu'il y a de la place pour des partis politiques vivants, pour une vie politique qui soit aussi un terreau fertile pour de nouvelles idées, et puis pour irriguer comme ça partout dans le pays, dans les pays?
Bon, en fait, non. Il y a un vrai déficit institutionnel en Amérique latine. Il y a très peu d'exceptions. Il y en a quand même. Mais il y a en général des partis politiques qui sont des sortes de soutien à des candidats qui fonctionnent le temps d'une campagne et qui disparaissent entre deux élections. Ce ne sont pas non plus des organisations qui jouent un rôle de sélection des élites pour des élections.
Alors là, on pourrait peut-être faire une comparaison avec des partis français qui sont
absolument
moins importants qu'ils n'ont été.
Exactement,
et puis des partis qui, comme la France Insoumise ou comme le parti d'Emmanuel Macron, reposent sur des noms, en fait, sur eux, sur leur tête à eux.
Oui, oui, non, la France est en train de ressembler à l'Amérique latine d'une certaine façon. Quand on regarde l'évolution des partis politiques, oui, c'est sûr. Il y a un émiettement, il y a une fragmentation. Il y a une trentaine de partis représentés au Parlement au Brésil. C'est impossible de gouverner avec une telle fragmentation. Donc c'est difficile et on voit ça pratiquement partout. Il y a quelques petites exceptions et qui sont d'ailleurs des pays qui sont plus démocratiques, comme l'Uruguay, par exemple. Peut-être le Chili un petit peu aussi. Enfin, on voit des exceptions, mais en général, il y a certains chercheurs disent qu'en Amérique latine, la démocratie vit sans parti politique.
Moi, je pense que le populisme, ça consiste à dépenser l'argent avant de le gagner. C'est-à-dire, l'Argentine ne s'est pas industrialisée, mais elle a créé des emplois industriels, surtout. Que tout ça s'est transformé évidemment en corruption assez rapidement, et ça a éclaté en coup d'État militaire terriblement. Mais ça consistait quand même à anticiper sur le développement. Le contraire du communisme consiste à travailler les gens pendant 30 ans avant de leur donner à manger. Tandis que l'Argentine, pendant 30 ans, on donne aux gens à manger, et même beaucoup et bien, et même on leur fait entendre les plus beaux opéras du monde au Teatro Colón à Buenos Aires, alors qu'il n'y a pas d'industrie. Autrement dit, ce pays s'est payé le luxe de se créer un monde intellectuel et même un monde ouvrier, comme les grands pays d'Europe, vivant aussi bien avec le même niveau de vie au début du XXe siècle que les États-Unis. Le même niveau de vie, l'Argentine et les États-Unis. Il faut quand même... venez pas me parler de pays sous-développés, quand même.
Alain Touraine, de nouveau au micro de Zoé Sfèze. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier Labben, avec cette idée que le populisme, c'est dépenser l'argent qu'on n'a pas, l'argent que l'État n'a pas?
Il est dit que je ne critiquerai pas Alain Touraine ce soir. Quand même, là, je le trouve un peu excessif. Dire que l'Argentine ne s'est pas du tout industrialisée, c'est un peu excessif. La grande période de l'industrialisation brésilienne, elle a aussi démarré sous la férule d'un dirigeant populiste, Getúlio Vargas. Donc,
aujourd'hui, l'Argentine est dans le marasme économique
aujourd'hui,
le plus profond.
Mais elle est passée par des phases. Et le projet populiste n'est pas seul responsable des avatars de l'industrialisation. La signature d'un accord de libre-échange, le Mercosur, par exemple, avec le Brésil, a beaucoup nuit à l'industrie argentine parce qu'elle était peu compétitive par rapport au Brésil. De même que maintenant, si on regarde l'industrialisation au Brésil, elle est victime du commerce avec la Chine. Ce n'est pas tellement le projet populiste. Donc, il exagère un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension où on veut distribuer du pouvoir d'achat, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il aurait pu mentionner, ce qu'il explique d'ailleurs dans son œuvre, Alain Touraine, le rôle des syndicats. Parce que les programmes sociaux d'un régime populiste sont des programmes sociaux dont la mise en œuvre est confiée aux syndicats. Ce qui, évidemment, à terme, un vecteur de développement de la corruption. Et au Brésil, on parle du vieux et du nouveau syndicalisme, par exemple. Et le vieux syndicalisme, c'est celui de l'époque... de l'époque de Getúlio Vargas, de l'époque populiste, où effectivement beaucoup d'argent ont transité par les syndicats pour favoriser l'épanouissement intellectuel, artistique, culturel, etc., des catégories les plus vulnérables de la population.
Alors je reviens à mon idée, Olivier Labben, de la comparaison. Comparaison n'est pas raison, je le sais bien. Mais tout de même, quand Alain Touraine évoque cet État qui vit au-dessus de ses moyens depuis des années et des années, est-ce que là encore, on ne peut pas faire une comparaison avec la France, par exemple?
On peut faire des comparaisons avec beaucoup de pays du monde. Quand on parle de cette façon qu'ont certains gouvernements de dépenser de l'argent alors qu'ils n'en ont pas, c'est oui, bien sûr, c'est assez répandu dans le monde. Et c'est vrai que l'Argentine a une tendance tous les 10 ans à succomber à des travers en matière de politique économique et de connaître des crises sévères. On a l'impression qu'entre deux crises, la classe politique ne prend pas la mesure de la gravité des ajustements qui sont nécessaires. Et donc on retombe dans le déjà vu.
Captation dans la rue de Santiago du Chili de cette chanson de Sergio Ortega écrite en 1970 au moment de l'arrivée au pouvoir d'Allende, reprise par les Chiliens en 2019 durant la crise sociale suite à l'augmentation du ticket de métro. Vous l'avez dit beaucoup, Olivier Labben, durant cette émission, au fond, ce qu'il faut regarder quand même quand on parle des leaders charismatiques, c'est les questions sociales. Et en l'occurrence, on a l'impression d'un sous-continent américain qui est vraiment aux prises avec de très graves questions sociales en ce moment.
Oui, c'est un petit peu la malédiction de l'Amérique latine. L'Amérique latine, on dit toujours, n'est pas un continent pauvre, c'est un continent inégal. Et c'est tout à fait vrai. Et lutter contre les inégalités a été historiquement un véritable défi. En fait, la pauvreté, elle a augmenté, elle a baissé, elle a augmenté, elle a baissé. Il y a des évolutions de la pauvreté, mais les inégalités, il n'y a eu qu'une seule période finalement où l'Amérique latine est parvenue à faire baisser simultanément la pauvreté et les inégalités, et c'était les années 2010, le moment de ces
de grandes croissances
à gauche, de conjoncture économique très favorable, de politique redistributive. Et là, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire effectivement les inégalités. Mais elles sont reparties à la hausse, sitôt cette période favorable de croissance économique. Sitôt cette période terminée, on a vu les inégalités repartir à la hausse. Donc il y a quelque chose de très compliqué, mais qui est au cœur de toutes les difficultés de l'Amérique latine.
Parce mais pourtant, il y a une volonté, vous le dites, dans le logiciel politique sud-américain, de s'adresser aux plus pauvres et donc de réduire les inégalités.
Il y a quelque chose dans l'algorithme politique des populistes qui les incite à redistribuer, mais à redistribuer de façon pas forcément très durable. C'est-à-dire, dans les années 70, au Venezuela, il y a des hommes politiques qui passaient dans les quartiers pauvres et qui lançaient des billets comme ça, des dollars. Faire la charité, c'est jamais une solution pérenne. Donc, c'est ça qu'on voit. C'est pas forcément des solutions, par exemple, qui consisteraient à travailler l'éducation publique, par exemple, qui est de très mauvaise qualité et qui est fréquentée par les pauvres. Donc, il y a un cercle vicieux. C'est aussi les politiques de santé publique. On l'a vu pendant, évidemment, la crise de la Covid, où les pays étaient inégalement préparés, mais enfin, quand même, avec des biais sociaux qui étaient assez évidents. Donc oui, pour moi, la problématique de base, c'est la problématique d'inégalité. Et malheureusement, on a l'impression qu'il faut toujours attendre un cycle économique pour pouvoir s'y atteler.
Parce que le problème n'est pas traité à la racine, mais peut-être de façon un peu curative avec justement l'utilisation de rentes et de redistribution quand il y a de l'argent par les leaders politiques.
C'est ça, mais il faut toujours qu'il y ait de l'argent. Et cet argent, il émane toujours d'un cycle économique plus ou moins favorable. Donc en fait, c'est une marque de la dépendance de l'Amérique latine à l'égard des grands courants économiques mondiaux, puisque son développement social, comme d'ailleurs sa vie politique en grande partie, est très subordonné aux grandes évolutions, disons, du commerce ou de l'industrie à l'échelle planétaire.
Alors il nous reste à commenter, on l'a pas fait, les deux dernières cartes qui nous racontent finalement après la première alternance, 99 la carte bleue des conservateurs, 2008 la carte rose des progressistes, 2021-2023, pourquoi cette carte est morcelée? Est-ce qu'il y a désynchronisation des espaces politiques en Amérique latine, Olivier Dabel?
Alors d'une certaine façon oui, mais quand même aussi il faut peut-être attirer l'attention sur quelque chose qui est assez nouveau, 2021-2023, c'est l'apparition de régimes qui ne sont plus démocratiques du tout. Enfin, jusque-là, on voyait qu'il y avait Cuba qui était peint d'une couleur différente des autres pays.
C'était le seul pays non démocratique
de la région. Maintenant, il y a le Venezuela, maintenant il y a le Nicaragua, alors ils ont même mis l'Équateur, ils ont mis aussi le Salvador.
Donc quand on a tout essayé, on essaye encore quelque chose d'un peu plus différent, enfin qu'on croit un petit peu plus différent, c'est ça la logique?
Oui, et puis on a aussi affaire à des dérives autoritaires qui sont à causalité multiple, hein. Parce que bon, quand vous êtes au Nicaragua, c'est très particulier, quand vous êtes au Venezuela, c'est tout autre chose.
Merci beaucoup, Olivier Dabel, d'être venu nous éclairer sur cette question des leaders charismatiques d'Amérique latine. Pour aller plus loin dans la découverte des fondamentaux du sous-continent américain, je recommande votre atlas de l'Amérique latine avec Frédéric Louot aux éditions Autrement. C'est déjà la 6e édition. C'était Géographie à la carte, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et Jean-Guilain Meige. La semaine prochaine, on poursuivra notre série sur les fleuves avec un petit fleuve français, l'Adour, dont on étudiera l'ensemble du bassin versant en compagnie de la géographe Sylvie Clarimont et du cinéaste Dominique Marché, dont le dernier film La Rivière raconte précisément ce bassin de l'Adour. Dans un instant, vous retrouvez le cours de l'histoire sur France Culture.